Bonjour, c'est Roche Dizem, vous écoutez Pop Pop Pop, tous les jours à 16h. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas un jeudi comme les autres. Non seulement nous nous apprêtons à prendre l'antenne à 21h pour la première nuit de la pop culture, pour ne la rendre éventuellement que le lendemain matin, mais en plus, comme pour nous mettre en jambe, nous recevons ici même, au Grand Contrôle, sur le lieu même des festivités à venir, un écrivain dont il n'est pas exagéré de dire qu'il a marqué du fer rouge de son talent une génération entière et que sans lui, la fameuse pop culture n'aurait pas tout à fait le même parfum ni la même saveur. Depuis toujours, Bret Easton Ellis a le chic pour mettre le doigt là où ça fait mal, comme on dit chez nous. Continue, ça fait mal. Oui, mais c'est ça qui est bon. Pardonnez-moi, Bret Easton, c'est exactement comme dans vos livres, ça fait mal, mais ça fait tellement de bien.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour, Bret Easton Ellis.
Hello.
Bonjour.
Bonjour, vous arrivez tout juste de Los Angeles. Merci d'avoir fait l'effort de venir nous retrouver.
Je suis ravi d'être à Paris.
Pour vous traduire la voix française des Oscars, Robert Wolfenstein, c'est chic, non ?
He's very helpful.
Il nous aide beaucoup.
He is my voice.
Ma voix, donc.
Vous dites ça de vous-même, Robert, il nous aide beaucoup.
C'est vrai.
À mes côtés, vous avez votre Batman, j'ai ma Robin, Charline Roux. Bonjour, Charline.
Je suis effectivement beaucoup plus sage. Bonjour, Antoine. Bonjour, Batista.
Hello, Charline.
Au menu également de Pop Pop Pop, ça. Ah ben non, rien. Parce que quand on reçoit une icône de la pop culture sur France Inter, eh bien, on lui consacre toute une pop-heure. Alors, moins que zéro, American Psycho, Les Lois de l'Attraction, Glamorama, Lunar Park, Suite Impériale, tous ces titres sont gravés dans la pop culture et depuis quelques mois, on peut y ajouter... W-H-I-T-E, White, dont nous allons parler... Entre autres. Bret Easton Ellis, vous êtes l'invité de l'honneur de la 4e édition du salon Fnac Livre de vendredi à dimanche. Et en attendant, vous êtes notre invité d'honneur. Bret Easton Ellis, sachez qu'ici, il existe une question qui fait trembler tous nos invités. Et cette question, c'est... Pour vous, Bret Easton Ellis, c'est quoi la pop culture ? Alors attention, parce que juste avec cette réponse, hein, nous pourrions faire un livre entier. Mais je vous écoute.
Écoutez, je ne sais pas si je fais le distinguo entre la culture et la pop culture, parce que dans les années 60-70, quand j'ai grandi, quand j'étais gamin, toute ma culture, en fait, c'était la pop culture, la musique rock, le rock and roll, mais également les films de série B, des films de science-fiction d'un certain genre. Donc pour moi, j'ai grandi avec la pop culture, alors que mes parents et leurs parents, les générations précédentes, avaient une idée de la pop culture qui était plus bourgeoise, qui aspirait à une certaine forme artistique, qui faisait de vous quelqu'un d'une meilleure personne, qui vous humanisait à travers les romans, le théâtre, le cinéma, bien sûr, un certain genre de film. Et moi, par contre, je n'ai pas fait cette distinction entre la culture et la pop culture. Pour moi, ça a toujours été la pop culture. Et pour moi, c'est quoi ? C'est des super films, des super groupes, des super bouquins. Pour moi, c'était toute la même chose.
Très bien, et je vous rejoins tout à fait. Je pense que les nuances sont appelées à s'estomper de plus en plus. Alors, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Walking in the Dark. C'est un morceau de Métronomie qui sera en live ce soir sur la scène de Pop 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 pour la nuit de la pop culture. Allez, musique. Walking in the Dark. C'est extrait du nouvel album Metronomy Forever. Et je rappelle que nous sommes à H-6 du concert de Metronomy dans la nuit de la pop culture sur France Inter. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une icône pop qui déteste Harry Potter, adore Kanye West et aussi les chatons. Et attendez, ça donne quoi si je mixe tout ça ? Tricicus Totalus. Expecto Patronum. D'accord, c'est un peu étrange. Alors, qui est donc cet invité étrange ? Réponse avec son pop portrait. Alors, oui, son pop portrait, bah, c'est son portrait, mais... À base de pop. Et il est signé Charline Rerr.
Aujourd'hui, un invité que je pourrais vous présenter en exerçant un esprit des plus sarcastico-vipérins sans qu'il n'en prenne ombrage, puisqu'il exerce le sien avec virtuosité depuis quelques années. Et aussi parce qu'il déplore le fait qu'aujourd'hui, ce genre de paroles soit empêché ou auto-censuré. On peut plus rien dire, sauf quand on est notre invité qui ne s'est jamais privé. On lui doit la paternité d'un anti-héros aussi génial que détesté, car psychopathe et meurtrier, le Patrick Bateman d'American Psycho, dont on se dit qu'il est peut-être bien le moule, la matrice brillamment anticipée par notre invité, de bon nombre de Golden Boys n'ayant de doré que le nom, pas la réputation et encore moins les exactions, dont le monde est aujourd'hui peuplé. On lui doit aussi les errances de Clay, ses angoisses existentielles, son héros Elvis Costello dans Moins que Zéro, la jeunesse que d'aucuns désigneront comme dépravée et les autres comme trop gâtée des lois de l'attraction, c'est lui aussi, tout comme les angoissantes et angoissé protagoniste de Glamourama, de Lunar Park, le retour d'Ensuite impérial du Clay précédemment cité. C'est pour un essai que ce libre penseur franc-tireur vient nous rendre visite aujourd'hui. Alors exceptionnellement, on pourra tout dire, mais juste ici.
Ok, et bien alors commençons. Donc, Bret Easton Ellis, vous adorez les chats et Kanye West, mais vous détestez vraiment Harry Potter.
Disons que je n'aime pas Harry Potter, mais j'aime beaucoup Kanye West. Alors, je ne sais pas d'où viennent les chatons. Quelqu'un vous a dit ça, je ne sais pas dans quelle note vous avez... Je déteste les chatons. Je ne veux pas être entouré de chatons. Si je vois un chaton qui s'approche de moi, je m'enfuis en courant. Qui a dit ça ? C'est pas possible.
C'est encore une de ces infos qui traînent, vous savez, qu'évidemment personne ne vérifie.
Mais par contre, j'aime bien les outres.
Les outres.
Il y en a beaucoup, et puis sur Instagram, on en a des photos, hein. Et c'est l'auteur d'American Psycho qui vous le dit, des outres ou des phoques.
Des loutres, ouais. Loutres. Mais il y a même un mème qui est devenu très très célèbre de gens comparant Benedict Cumberbatch à une loutre.
Benedict Cumberbatch owns an otter in
une outre dans une émission, hein, c'est pas vrai.
C'est devenu un mème en fait. Beaucoup de gens comparent son physique à celui d'une loutre.
Voilà. Yes.
Très juste. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Alors, je suis pas un fan de Benedict. Je préfère l'outre justement. mais bon.
Bien, que lit Bret Easton ? Qu'écoute Bret Easton ? Que regarde Bret Easton ? La planète veut savoir. On va passer à sa pop list. Bret Easton Ellis, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur The Delivery Man, écrit par Joe McInnes Jr., dont c'est le premier roman, un livre paru en 2008. Charline, un roman qui tendrait à confirmer que ce qui se passe à Vegas a intérêt à rester à Vegas. La preuve ? D'ailleurs, il n'a toujours pas été traduit en français.
Mais on peut tenter un résumé. Sexe, drogue, mensonge et rêve brisé pour la génération MySpace, le tout dans la ville de tous les vices.
Bien. Bret Easton, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, pour qu'on en ait un aperçu ?
Yes, I will read a few lines, but I must say first of all that I was very surprised.
Je dois dire que j'étais tout à fait étonné par ce livre tout à fait excellent, néo-noir à Las Vegas. Après le crash américain, c'est des gamins qui ont décidé de créer une agence de prostituées, et ce livre n'avait pas été publié. Moi, j'ai participé à l'écriture de ce livre et j'ai passé quelques années dessus, j'en suis très fier. Alors, je vais vous en lire un petit passage que l'on m'a donné à l'instant, en me disant, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai écrit ces lignes. Et ensuite, je me suis dit, merde, j'ai vraiment écrit. J'étais très proche de l'auteur et j'étais associé à l'écriture de ce livre. Et j'espère que quelqu'un, éditeur en France publiera ce thriller tout à fait passionnant.
Michelle is on her back, naked, her eyes closed. She's been in the same position for 15 minutes while the man, sunburned, a college ring, 50-something, tries to make her come. But he's clumsy and drunk and keeps asking her what she likes. Tell me what makes you feel good, he pleads. He's breathing heavily and says, I don't want to leave until you come. With his face pressed against her, he says, I shouldn't be here. And then the man asks her if he can please stay. He asks her if he can lie with her for a while. I've got more money. The man says that the next time he sees her, he will bring things for her to wear.
Robert, en deux mots.
En deux mots, une petite traduction. Michel est allongé sur son dos, toute nue, les yeux fermés. Elle est dans la même position depuis un quart d'heure, tandis que le bonhomme par-dessus elle, couvert de coups de soleil, qui porte une bagouze au doigt qu'à la cinquantaine, essaie de la faire jouir, mais il est maladroit et complètement ivre, et ne cesse de lui demander ce qu'elle aime. Dis, bah, ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir? Il lui supplie de lui dire, il respire, sa respiration est lourde et persistante, il dit, je ne m'en vais pas avant que tu aies joui. Son visage pressé contre le sien, il dit, je ne devrais pas être ici, non. Et puis ensuite, le bonhomme lui demande, s'il te plaît, est-ce que je peux rester encore un peu? Il lui demande s'il peut rester allongé à côté d'elle encore un petit peu. J'ai encore des sous, tu sais, j'ai encore des sous. Et le bonhomme lui dit que la prochaine fois qu'il la voit, il lui apportera des vêtements.
Merci Robert. Alors je précise bien qu'il s'agit d'un extrait de The Delivery Man hein, de Joe McInnes Jr. et non pas le récit des vacances de Robert Wolfenstein. Ça n'a rien à voir, ce Delivery Man, avec un film québécois qui raconte l'histoire d'un donneur de sperme, si je comprends bien.
The Delivery Man has anything to do with what? Semen donor.
Ah, donneur de sperme. Non. Mais figurez-vous que j'ai vu un film pornographique qui fait intervenir un donneur de sperme. Un très bon film. Et puis j'ai vu Semen donor, donneur de sperme. Le deuxième n'était pas bien, mais le troisième était génial. C'était une série de films absolument géniale. Je vous la recommande.
Et le quatrième sera excellent.
Espérons-le. Mais les chats coquilles, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat?
Pour le film, vous avez choisi le cultissime Phantom of the Paradise, réalisé par Brian De Palma, sorti en 1974. Un film qui, le saviez-vous, a influencé notre mondialement célèbre duo électro Daft Punk, Charlie.
Effectivement, Antoine, c'est l'histoire de Winslow Leach, jeune compositeur qui tente par tous les moyens de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, le producteur et patron du label Death Records et promoteur du Paradise, Palais du Rock, cherche de nouveaux talents. Du coup, il décide de voler la partition de Leach. Il le fait enfermer pour trafic de drogue et défiguré, sans voix et brisé, Leach réussit à s'évader et revient hanter le Paradise.
20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story.
What was that?
A beautiful love story.
Like a circus.
A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter. Wow! Phantom of the Paradise.
There really is the Phantom.
Phantom of the Paradise de Brian De Palma, le choix de Bret Easton Ellis dans sa pop list pour le cinéma. Est-ce qu'on vous diriez que c'est un des films qui ont forgé votre pop culture, une de vos pierres de rosette d'une certaine manière?
Oh, definitely.
Absolument, absolument. J'ai vu ce film à sa sortie et en fait j'en parle dans White, j'avais 10 ans, c'était en 1974 effectivement. Et je me rappelle être allé tout seul au cinéma pour voir un film qui est quand même un petit peu bon, sexy. Enfin, un film à la... C'est une version rock'n'roll du fantôme de l'opéra en fait. À l'époque du rock, donc transposé. Alors, vous avez, à l'époque, c'était ce qu'on appelait les films PG, il fallait y aller accompagné de ses parents, maintenant c'est interdit aux moins de 16 ans. Toujours est-il que c'était des films plus ou moins pour adultes, mais enfin, c'est la première fois que Brian De Palma avait un budget conséquent et ses décorations, son style, tout cela a commencé à naître dans ce film. Et puis il y avait une histoire de Paul Lynde, le scénariste. Moi, j'ai adoré le film. En fait, je l'ai présenté au British Film Institute au mois d'avril l'année dernière, cette année, avant de venir ici en France. J'adore ce film. Je l'ai vu des dizaines de fois.
Bien, nous avançons dans la pop list de Bret Easton Ellis et nous passons à la série. Là, vous avez choisi Too Old to Die Young. C'est une série créée par Nicolas Winding Refn, disponible sur Amazon Prime Video depuis juin dernier. Charline, voilà une série qui a provoqué moult débats. Rappelez-nous.
Parce que, comme souvent, on a reproché à son auteur-réalisateur son côté arty-poseur. D'autres y ont vu une œuvre absolument radicale. Too Old to Die Young s'attache au quotidien dans les bas-fonds de Los Angeles d'un officier de police endeuillé après le meurtre de son coéquipier.
Society's falling. It's all collapsing around us. Soon our cities will be washed away by floods, buried in sand, burned to the ground. That's why you found me. As the world fractures.
Le choix de Bret Easton Ellis, c'est sa série pour sa poplist Too Old to Die Young de Nicolas Winding Refn. Too Old to Die Young, trop vieux pour mourir jeune. C'est pour moi que vous avez fait ce choix, Bret Easton?
Détrompez-vous. C'est très drôle, mais non.
Vous savez,
c'est une série qui a enchanté tout un public. Il y a des gens qui l'adorent. C'est un peu clivant. Il y a des gens, par contre, qui le détestent. Ma pauvre maman, quand elle m'a entendu chanter des louanges de cette série, elle m'a appelé en disant « C'est la pire série que j'ai jamais vue. » Donc, c'est plutôt clivant. Mais j'ai des amis qui l'adorent. Et qui, les 10 heures de la série, ils sont absolument inconditionnels. Mais on ne peut pas séparer l'aspect artistique, prétentieux, et l'art réel. Chez Refn, tout se mélange. Et effectivement, il a filmé cette série comme une espèce de film de haut calibre, de grande qualité. Et cette qualité artistique, je ne l'ai jamais vue, très rarement à la télévision. C'est quelque chose de très personnel. Et c'est dans les épisodes 4, 5 et 6 que la série trouve son apogée. On n'a peut-être pas besoin de voir les deux premiers épisodes, les 4 derniers, mais les 5 au milieu sont vraiment les meilleurs. Et Miles Teller, il est absolument génial. Et la cinématographie, la BO, peut-être pas pour tous les goûts, mais c'est vraiment mon choix culte maintenant.
C'est une série très clivante, hein, comme vous venez de le rappeler, qui a autant d'adorateurs que de gens qui la détestent. Ça vous rappelle de bons souvenirs ?
Ah oui, à chaque fois, des bons souvenirs. Et même le printemps dernier, quand j'ai publié White, c'était également très clivant. Ça m'arrive tout le temps. Quand je sors un bouquin, ça m'est toujours arrivé. Ça ne m'est jamais pas arrivé. Même less than zero, moins que zéro, la critique était déjà très, très divisée. Et il y avait des gens qui trouvaient ça génial et d'autres ne comprenaient pas comment un éditeur respectable pouvait publier le journal d'un drogué de 18 ans. Et ça, c'était les bonnes critiques en plus.
Ça vous désole ou ça vous réjouit? Un jour, vous aimeriez faire l'unanimité ou pas?
Vous savez, je recherche pas les bonnes critiques. J'ai jamais écrit des bouquins pour avoir de bonnes critiques et j'ai jamais obtenu de prix en Amérique. Et ça fait 10 ans que j'ai pas publié un bouquin aux États-Unis de toute façon. Et je sais pas si ça compte tellement pour moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire les livres que je voulais écrire. C'est ça qui compte. J'écris pas, en tout cas, aux États-Unis, vous avez des écrivains qui sont adulés. Bon, je fais pas partie de ce club-là. Vous en avez d'autres qui sont, je cherche les mots, donc qui sont adorés par les critiques. Mais bon, c'est comme ça.
Bien, terminons cette pop list, Bret Easton Ellis, avec votre chanson, la chanson culte que vous avez choisie, et c'est celle-ci. Dangerous Type des Cars, sorti en 79 sur l'album Candy Ho. C'est un choix qui sonne comme un hommage, j'imagine, à Rick Ocasek, le leader du groupe qui vient de nous quitter.
I cheated on the cult question.
J'ai triché sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, la chanson que j'aurais choisie s'appelle Where Am I Gonna Run To ? C'est un artiste complètement inconnu qui s'appelle Ryan Down. Et ça, c'est une chanson que j'adore vraiment. Mais effectivement, Rick Ocasek est mort la semaine dernière. Il a fait partie de mon adolescence. Les premiers disques des Cars, The Cars et Candy Ho, m'ont vraiment complètement époustouflé. Et bon, c'est peut-être une raison sentimentale qui m'a amené à choisir une chanson des Cars. Mais enfin, c'est quand même marrant. C'est pas une chanson culte. Pourtant, ils ont vendu des millions d'albums. Le premier album, déjà 6 millions. Heartbeat City en a vendu 7 ou 8 millions. Et pourtant, je sais pas. J'étais dans un état d'esprit un peu sentimental. J'ai voulu effectivement rendre hommage à Rick Ocasek. Et bon, The Dangerous Type, c'était la chanson qui me venait à l'esprit.
Vous voyez, Charline, je vous le disais, Brett Easton Ellis peut être très sentimental aussi.
J'ai aucun doute à ce sujet.
Bien, alors je résume. The Delivery Man, Phantom of the Paradise, Too Old to Die Young et les Cars. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
20th Century Fox presents...
What was that?
She's not like you.
A beautiful love story.
The danger's...
Society's falling. It's all collapsing around us.
She's been in the same position for 15 minutes while the man tries to make her come. Tell me what makes you feel good, he pleads.
That's why you found me.
Phantom of the Paradise.
There really is the Phantom.
Et nous voici un peu dans la tête de Brett Easton Ellis, hein, ce 19 septembre 2019. Ça va, vous vous y retrouvez ou...
Oui, je m'y retrouve. C'est curieux, mais oui. C'est un peu comme un reflet, un miroir qui réfléchit mon image.
Est-ce que ça doit nous rassurer? Je ne suis pas sûre.
Ça devrait vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Ou alors assurer, je ne sais pas, c'est mieux. De toute façon, non, vraiment, c'est sincère. Et je signe, je persiste et signe. Pour moi, c'est pas, en fait, pas des œuvres cultes, comme on disait au début. Ce sont des œuvres que j'aime vraiment. Et peu importe qu'elles soient pop ou non.
Alors, je sais que dans votre tête, il y a aussi du Public Enemy. Le Public Enemy qui figurait sur la BO de l'adaptation au cinéma de votre premier roman, Less Than Zero, c'était Bring the Noise. Eh ben, on écoute ça tout de suite.
Yo, Chuck, these dirty drippers are still frontin' on us. Show them that we can do this, 'cause we always do this. Ha ha, yeah, boy.
Bass, how low can you go? Death row, what a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal thief. Public enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-bun. Now they got me in a cell, 'cause my records they sell. 'Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you wanna do is follow for now. Hell, what the people say, make a miracle. Deep up the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out.
Yeah, yo, come on.
Here we go again. The brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, 'cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, 'cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Me, my DJ is warm, he's X, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band man making a music of music, but you can't do it, you know. You call them demos,
but we ride demos too.
What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono,
beat is for Yoko Ono.
Run DMC first, then a DJ could be a band standing its own feet. Get you out your seat. Beat is for Eric B and the LL as well. Hell,
watch is for Anthrax.
Still it can rock bell. Ever forever, universal. So it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Bring the noise.
Yo, they should know by now that they can't stop this bummer.
Bring the noise.
Word up, and they keep telling me to turn it down. But yo, play the flame ain't going out like that.
Come on. Used to be like a comatose. Stand my man, the beats the same with a bolster. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars.
They'll never get accepted as.
We got to plead the fifth, you can investigate. No need to.
the way, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor. Terminator, exercise, check, play to get paid. You got to check it out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you.
Hey, yo, Griff, get the S1W. We got to handle this. We ain't going out like that. Yo, man, straight up on the Columbo tip. We can do this like Brutus, because we always do this. You know what I'm saying? There's just one thing that puzzles me, my brother. What's wrong with all these people around here, man?
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Caunes.
Et Charlino. C'est une journée spéciale dans l'histoire de Pop-pop-pop puisque nous recevons aujourd'hui un maître, Bret Easton Ellis. Et nous sommes ici aujourd'hui avec lui pour parler de White, un essai et non pas un roman puisqu'il n'en a pas publié depuis 9 ans. Mais Bret Easton Ellis, vous restez fidèle à votre légende et ce n'est bien sûr pas un essai comme les autres. Vous aimez bien provoquer, penser de côté, remettre en cause les postulats de la pensée dominante et toujours avec un humour noir et acide. Par exemple,
on peut lire sous votre plume, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas vraiment bon pour reconnaître ce qui mettait en rogne ou pas les gens parce que l'art ne m'a jamais offensé. Fin de citation. Est-ce que vous avez fait quelques progrès de ce côté? Est-ce que vous pensez pouvoir tenir l'heure sans nous choquer?
En fait, ce que je disais dans ce passage, c'est que moi, ce qui me choque, ce qui m'effraie, c'est que vous avez des gens, alors c'est toute petite minorité de gens qui décident de ce que l'on a le droit de voir, ce qu'on n'a pas le droit de voir, ce qu'on a le droit d'écouter, ce qu'il ne faut pas écouter, quelles formes d'art sont acceptables et lesquelles ne le sont pas. Et ce qui se passe maintenant, c'est une forme de puritanisme, en fait. Alors, il ne s'agit pas de nous protéger du sexisme ou de l'homophobie ou du racisme. Non, c'est l'idée de rester un enfant tout le temps et de ne jamais traiter, gérer les complexités du monde adulte. En fait. Et en fait, je ne sais pas si ces gens se soucient de là ou ils connaissent quoi que ce soit. C'est des espèces de buzz qui circulent. Alors, c'est un état d'esprit naïf. C'est-à-dire que si on représente du racisme, on est raciste. Si on présente du sexisme, on est sexiste. On voit jamais, les gens ne reconnaissent même pas la métaphore ou le deuxième degré. Ça pose problème. Et justement dans White, et c'est quelque chose qui me rend un peu perplexe parce qu'il y a des choses qui peuvent me choquer. D'ailleurs, je ne demande pas mieux que d'être choqué par l'art, mais pour moi, l'art ne peut pas vexer, blesser, offenser. Il faudrait qu'il soit régulé, faire l'objet de réglementations. Alors moi, ce qui me choque effectivement, c'est lorsqu'on décide de couvrir des tableaux ou lorsqu'on veut interdire des spectacles parce qu'on pense qu'il y a du racisme. C'est arrivé d'ailleurs sur HBO l'année dernière. Je pense un peu différemment, disons.
Bret Easton Ellis, il y a un mot dont l'importance est centrale dans la culture américaine d'aujourd'hui, c'est le mot « trigger », déclencheur en français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces déclencheurs? Est-ce que ça veut dire que déclencher quelqu'un?
Well, you triggered me earlier.
Tout à l'heure, vous m'avez déclenché avec cette histoire de chatons. Ça m'a déclenché. Alors, je ne sais pas comment les chatons sont rentrés dans la conversation ou même la notion même de chaton est devenue associée à mon nom. Ça m'a déclenché. Mais la même chose se passe dans la culture américaine. Lorsqu'on parle de certains films, de certaines chansons, il y a un exemple. Alors, il y a des gens qui pourraient trouver des plaisanteries inacceptables. Certaines personnes pourrait se choquer ou ça pourrait les déclencher. Ça pourrait déclencher justement ou rappeler des mauvais souvenirs au sujet de quelque chose. Il y a des grandes universités aux États-Unis, vous avez des professeurs qui sont obligés d'annoncer les déclenchements, les triggers, qui sont dans les manuels avant même qu'on ouvre le livre. Je ne sais pas, le livre Moby Dick, si vous aimez les baleines, ça peut vous déclencher parce qu'on chasse la baleine dans ce bouquin. Et jusqu'à Shakespeare. Alors voilà, c'est ça le déclenchement. Et ça, il faut vraiment s'en débarrasser.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que peut-être, comme tous les adultes, vous avez un peu perdu de votre capacité d'indignation?
Peut-être qu'avec l'âge, on s'endurcit, on est un peu blasé, on perd la capacité de s'indigner, peut-être, peut-être, mais en réalité, moi, ce qui me choque de plus en plus, c'est la stupidité des gens, hein, et c'est ça qui m'indigne, et ce qui me choque aussi, c'est de voir la stupidité. Autrefois, je ne pensais pas dans ce genre de choses, mais effectivement, c'est des pensées qui vous viennent quand on vieillit. Hein. On n'est peut-être pas choqué ou indigné, mais on est un peu attristé de voir la stupidité profonde des gens.
Et on a aussi le sentiment, Bret Easton Ellis, dites-moi si je me trompe, que vous prenez un malin plaisir à déclencher tout ce qui relève du politiquement correct.
Alors, déclencher les bien-pensants, c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est marrant. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma tournée. C'est comme si vous mangez le glacis sur le gâteau. Hein, et les gens sont furieux parce que c'est des choses qui ne devraient pas les déranger. Et pourtant, c'est peut-être un malin plaisir. Mais c'est pas ma raison d'être. C'est pas la raison pour laquelle j'écris. J'écris pas pour choquer les gens, pour les offenser. Mais c'est pas le but du jeu. Mais si les gens se sentent déclenché, offensé par ce bouquin. C'est le cas de nombreux millénials ou même des gens qui soutiennent Trump. Lorsqu'on présente quelque chose de Trump, ça les déclenche aussi. Mais moi, je n'ai pas cherché, je ne suis pas un provocateur, je ne cherche pas à choquer, à offensé, je ne suis pas un provocateur dans l'âme, mais c'est quelque chose qui arrive dans mes bouquins. Si je le voulais vraiment, j'aurais abordé ce métier différemment. J'aurais écrit 10 American Psycho, je les aurais rendus bien plus courts.
Mais vous dites ne jamais avoir voulu choquer, sauf si on vous lit dans White sur les réseaux sociaux, puisqu'on vous écrivait « Twitter encourageait le mauvais garçon en moi et j'aimais Twitter pour cette raison en 2012 ». Alors, quid de 2019? Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui vos pratiques numériques?
Twitter, c'était quand même sympa. C'était vraiment effectivement ce qui nous encourageait à être le bad boy, le mauvais garçon. C'était un petit peu le Far West au début où tout le monde pouvait raconter des blagues absolument innommables ou dire des choses qui étaient complètement inacceptables. Et Twitter encourageait. Initialement, Twitter avait été conçu pour ça. On avait 140 caractères et on essaie de dire la chose la plus dingue possible en 140 caractères. Alors, ce n'est pas le même état d'esprit quand vous êtes sur un bouquin ou un roman sur lequel vous travaillez pendant des années. On ne peut pas garder ce rythme. Mais Twitter était parfait dans ce format-là. Mais c'est vrai, je ne pratique pas Twitter autant qu'autrefois parce que maintenant, c'est vraiment toxique. Hein. C'est vraiment un environnement toxique et 90% de cet environnement est négatif. Alors, on peut s'en servir pour faire de la pub, par exemple pour mon podcast, hein, ou on peut s'en servir pour exprimer des idées ou participer à la conversation générale. C'est nul, Twitter, c'est complètement nul.
Bret Easton Ellis, la pop culture, notre objet ici, a longtemps été un bastion de résistance et de subversion. C'est largement plus policé aujourd'hui. Où se sont déplacés les provocateurs aujourd'hui, à votre avis?
Je ne sais pas où ils sont passés. Je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est que Trump est peut-être le provocateur par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme du punk rock. Tout le monde devient dingue en l'écoutant et peut-être qu'on lui donne trop de pouvoir en lui permettant d'être aussi un, je ne sais pas, horrifiant, en lui accordant tellement d'importance. Mais il y a des factions différentes. Vous avez à l'extrême gauche, ce qu'on appelle la gauche crasseuse, on peut dire, qui se roule dans une espèce de fange avec un certain plaisir que je préfère à l'extrême droite, franchement.
Bien, Bret Easton Ellis, nous allons continuer cette conversation dans quelques instants. Mais pour l'instant, je dois faire une pause dans cette émission. Est-ce que vous savez faire ça?
Non.
I don't remember the last time I stuck a finger in my mouth.
Je me rappelle pas quand la dernière fois que j'ai mis mon doigt dans ma bouche.
Si vous ne le faites pas, on envoie un bruit de chat.
Okay.
Non, ça ne marche pas. Bon, ça n'a aucune importance.
I can't do it.
J'y arrive pas. C'est juste pour lancer les pop news.
Trois ans se sont écoulés depuis la sortie de Here, le dernier album en date d'Alicia Keys. Depuis, elle juge et coach dans The Voice. Après un passage remarqué au dernier Grammy Awards, revoilà la chanteuse et pianiste virtuose, épaulée pour son tout nouveau titre Show Me Love par Miguel.
Show me love, love. Show me love. Love.
Un titre annonçant un possible 7e album pour Alicia Keys et cadeau bonus dans le clip qui accompagne Show Me Love, la sublime Zoé Saldana et le non moins sublime Michael B. Jordan à voir sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr.
Lu hier le tweet suivant: Netflix, next month, it's scary. Et si on prête attention à la bande-annonce qui suit, c'est que le tweet est signé Stephen King, puisque In the Tall Grass est l'adaptation de l'une de ses œuvres co-signée avec Joe Hill, son digne rejeton, et dans Les Hautes Herbes, ça raconte l'histoire d'un frère et de sa sœur piégés dans un champ au Texas après avoir répondu à l'appel à l'aide d'un jeune garçon. Bande-annonce donc.
Cal?
Becky!
Something's not right about this. I think we should head back to the road.
Becky?
Travis?
Who are you? What's going on?
How did you get here before us?
I don't know.
My boy, he's lost in here too.
This is nuts.
It's only a feeling.
What's happening?
He went the other way.
Le film est lui signé Vincenzo Natali, le réalisateur d'Hannibal. La série est comme le tweetait Stephen. Le film sera en ligne le 4 octobre.
Son nom est Bond, James Bond, et son arme de prédilection, soit le Walter PPK, dont il joue habilement dans GoldenEye, va être mis aux enchères, j'annonce, 60 000 livres. Lors d'une gigantesque vente d'objets ciné, tels que le costume du Batman de Tim Burton, 80 000 livres, la veste de Vito Corleone, le soupul de Spock, la hache de Nicholson Jack Torrance dans Shining, les baskets de Forrest Gump, couvertes de boue et mises à prix entre 8 000 et 10 000 livres. La vente se déroulera à l'Odéon à Londres le 30 septembre et le 1er octobre, mais on peut déjà s'inscrire et enchérir en ligne sur Props. Auction.com. Ah, et on peut aussi acheter le cuir de Schwarzy dans Terminator.
I'll be back.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Yes, it's me, Charlene.
Oh, bah Arnold Schwarzenegger.
Mais évidemment. Bravo, Charlene. Brett, Easton Ellis, vous restez avec nous. On est en direct sur France Inter. Il est 16h42 et c'est l'heure d'écouter un des groupes que vous avez aimé, les Bangles, et ce morceau, Manic Monday.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream.
Bangles dans Pop Pop Pop. Nous recevons aujourd'hui Bret Easton Ellis, venu nous parler de White, son livre, son essai paru chez Robert Laffont, et nous sommes ravis d'avoir Bret Easton Ellis dans ce studio. Bret Easton, j'ai été très surpris de lire autant de commentaires sur le cinéma dans White. Est-ce que vous avez toujours été un aficionado de cinéma?
I wish there were more comments about movies
in White. Il faudrait qu'il y ait, j'aurais dû en mettre plus. En fait, à l'origine, il y avait davantage de commentaires sur le cinéma, mais c'est mon éditeur qui m'a décidé, qui m'a demandé d'en enlever. Alors peut-être que j'en mettrai davantage dans mon prochain livre. Moi, j'adore le cinéma. C'est vrai que le cinéma a joué un rôle important dans ma vie, à telle enseigne que je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, c'est un peu des mémoires, mais enfin, il faut relier cela à mes propres pensées sur, je sais pas, le processus d'écriture, l'écriture de American Psycho, le film dont s'inspirait, qui s'est inspiré plutôt, qui s'est basé sur Lesson Zero, la vie dans les années 80 à New York, le 11 septembre, toutes les errances autour du Trumpisme et mes relations avec mes copains de l'époque. Enfin, le cinéma était toujours à l'arrière-plan de cette vie américaine, et le cinéma a toujours compté pour moi. D'ailleurs, le fait que j'ai grandi dans l'époque dorée du cinéma des années 70 explique pourquoi il y a une telle relation avec le cinéma.
J'ai une question mummy porn. Est-ce que vous avez réellement lutté pour participer à l'adaptation au ciné de Fifty Shades of Grey? Quelle qualité littéraire, sociétale, est-ce que vous lui avez trouvé au point de vouloir en être?
Alors, je ne sais pas s'il y avait une qualité littéraire dans 50 nuances de gris, mais l'histoire était sympa, je trouvais. Et alors, c'est vrai, certains ont trouvé que c'était un petit peu gênant de me mettre sur Twitter pour essayer d'être l'adaptateur de ce roman. Mais enfin, c'est une histoire de deux jeunes gens. Enfin, on raconte une histoire d'amour, finalement, en 6 ou 7 escapades sexuelles. Enfin, bon, alors, la première est très innocente, et puis ça devient un petit peu plus sombre, et puis à la fin la fille doit partir parce que l'homme n'arrive pas à se maîtriser et il faut qu'il l'emmène dans la chambre rouge, enfin je ne sais plus. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très puissant là-dedans. La façon dont le sexe est écrit, évidemment, est un petit peu bancal, un peu maladroite, et l'histoire ne tient pas toujours debout. Mais enfin, souvent les films, l'histoire ne tient pas debout non plus. Et moi je pensais faire mieux, mais enfin, ça ne s'est pas fait, quelqu'un d'autre l'a fait.
Tiens, à propos d'histoires qui ne tiennent pas debout, je crois que Kanye West voulait que vous écriviez un film dont le pitch très particulier. Ça racontait une scène qui se passe sur une planète sur laquelle les lamas sont utilisés comme devise. Où en est ce projet?
Voilà, j'adore Kanye West, vraiment, j'adore. Je trouve que c'est quelqu'un d'absolument génial. Alors, il m'a demandé d'écrire un film pour lui qu'il allait produire. Alors, effectivement, j'ai raconté ça à quelqu'un, il y a une fuite. Oui, ça se passe sur une étrange planète, et effectivement, on se sert de lama comme monnaie, et tous ceux qui travaillent dans ces mines d'épices, enfin, mais pas pour extraire des épices, mais des couleurs. Enfin, c'est un peu spécial. Toujours est-il que j'ai eu cette conversation avec Kanye, et il y avait d'autres producteurs avec lui, et il a dit, mais on peut faire ce film, enfin, il y a 300 lamas dans ce film. Et c'est là qu'il dit, voilà, c'est la raison pour laquelle je veux faire ce film avec les lamas. Enfin bon, parenthèse, toujours est-il qu'on y a pensé. On a travaillé sur d'autres projets aussi, d'autres scénarios. Mais enfin, il n'en a rien sorti, mais c'est toujours sympa de travailler avec lui.
Et pour continuer sur le cinéma, dans un tweet daté du 13 août, vous écrivez, je cite, « The best American movie of the year » pour parler de Once Upon a Time in Hollywood. Pourquoi ce Tarantino-là recueille vos faveurs?
I don't know. Je sais pas. Il se trouve que c'est comme ça. Il y a quelque chose dans ce film qui, pour moi, enfin, ce film, c'est du cinéma à l'état pur. Vous avez du Tarantino qui fait un film hommage, un film mémoire. C'est pas un film, c'est un film un peu sur son enfance. Et c'était aussi ma propre enfance, mon hommage. Et donc, je connais ce Los Angeles de 1969. C'est peut-être pour ça que j'aime le film, mais j'aime aussi ce film parce que c'est un Tarantino plus soft, plus doux. Et c'est son amarcord la nuit américaine de Truffaut, enfin c'est Fellini, c'est Truffaut, c'est son film très personnel, disons, sur la vie à Los Angeles dans les années 60 quand on est jeune, et même quand on voit la deuxième fois, c'est encore mieux.
Bret Easton Ellis, un de mes amis américains, tout comme vous, était punk dans le Los Angeles du début des années 80. Tout comme vous, il allait aux concerts de groupes comme X ou les Go-Go's, et il me dit toujours que s'il voulait être punk aujourd'hui, ce qu'il pourrait faire de plus rebelle, de plus dangereux, ce serait de professer des opinions conservatrices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
I don't know.
Là, je ne sais franchement pas. Là, franchement, je ne pourrais pas vous dire.
I would think that,
ce que je me dis, c'est que le punk des années 80, effectivement, était un peu clivant parce que vous aviez des groupes qui étaient très conservateurs et d'autres qui n'étaient pas. J'avais quelqu'un qui était un joueur de basse pour les Vandals. Et Orange County, en Californie, c'était un bastion du Parti républicain dans les années 80. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont. Il me semble que tous ceux qui sont dans le secteur du divertissement, dans la corporation du divertissement doit se trouver à gauche nécessairement. Ce n'est pas particulièrement utile ni intéressant, mais disons que ce n'est pas très inclusif d'une certaine façon. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'on peut penser de cela. Ce serait bien qu'il y ait davantage une diversité d'opinions dans le monde du divertissement qu'il y en a actuellement. Alors, peut-être que les choses vont changer. Hein. Je sais que David LaChapelle avait fait une émission spéciale sur Netflix qui a été très suivie, alors qu'il évidemment attaquait la bienséance et le politiquement correct. Mais il faut bien se rendre compte que c'est la gauche qui a créé la nouvelle culture.
Pour finir, Bret Easton Ellis, il y a une citation de Groucho Marx que j'adore et qui me fait un peu penser à vous. Il disait: je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Est-ce que c'est une réflexion que vous pourriez faire?
Moi, je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'aurait pour membre. Groucho Marx, en effet. En fait, je ne sais pas si je me reconnais là-dedans, parce que, disons qu'à ce stade, quand même, j'aimerais faire partie d'un club qui aurait des centaines de gens comme moi, ou peut-être des milliers de gens comme moi. Et pas de chatons, hein, surtout pas de chatons.
Ça, il n'y aura pas de chatons, on vous promet. Le livre s'appelle White, il est édité chez Robert Laffont. L'auteur, c'est évidemment Bret Easton Ellis, c'était notre invité aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis de vous avoir sur ce plateau. Mais attendez, l'heure tourne, et j'ai l'impression que c'est le moment pour moi d'aller chercher le dernier vinyle de l'émission. Mais attendez, oui, ah ben voilà, attendez, il faut que j'aille le chercher. Voilà. Non, attendez, comme nous sommes à grande contrôle, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de trappe, comment je vais faire? Ah ben non, ce que je peux faire, c'est prendre ma DeLorean pour voir ce qui s'est passé il y a quelques heures. Ah ben non, attendez, je me suis retrouvé dans un lit de Bridgestone, non, je repars. Ah ben oui, voilà, Canine qui répétait pour la nuit de la pop culture, et si je vais voir à 5h du matin? Ah oui, le Pop-Up Club, Dead Banger. Bon, mais ils vont pas être déçus, les auditeurs. Bon, je retourne avec Bret Easton Ellis. Voilà, retour sur le plancher des vaches, comme disent les millennials. Bret Easton, je vous emmène en 77 dans ma DeLorean pour écouter un petit Elvis Costello. Less Than Zero, par exemple. Allez, on y va.
Stuck a tattoo, there is a vacancy waiting in the English voodoo. Carver beef for metal on the guilty boy's head. When he's had enough of that, maybe you'll take him to bed too. Picture him alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but every film means less than zero. Hit. Oswald and his sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in a style. Turn up the TV, no one was none will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, red,
cigar still smoking. A man lay on the floor. Mr. Oswald said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Let's talk about the future now. We put that past away. Suspect even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, 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 hit.
Eh oui, c'était Elvis Costello, Less Than Zero, exactement comme un des romans de Bret Easton Ellis, qui était notre invité aujourd'hui pour Pop Pop Pop, est venu parler de White, son nouveau livre disponible depuis quelques semaines et absolument indispensable. Merci Bret Easton.
Thank you for having me, Antoine.
Et merci de m'avoir invité.
Et je vous offre ce petit chat, évidemment, pour repartir avec. Et je rappelle que vous serez à Paris vendredi pour remettre le prix du roman Fnac 2019 lors de l'inauguration du salon Fnac Livre. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Hélène Langlois, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat et Alexis Alacour, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, on vous propose un remix de la première nuit de la pop culture. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3-0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt, comme dit Bret Easton à la fin de ses podcasts, abonnez-vous à notre podcast.
Oh, très mauvaise imitation, Antoine.
Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 36-15, pop, 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 sur Instagram et Twitter.